Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flagel.
Bonsoir, nous voici donc à nouveau ensemble dans nos lectures en liberté pour la suite du récit de Éric Vuillard, L'ordre du jour. Mais pour mieux comprendre ce qu'est la réunion du 20 février pour en saisir le fond d'éternité, il faut désormais appeler ces hommes par leur nom. Ce ne sont plus Günther Quantz, Wilhelm von Oppel, Gustav Krupp, August von Finck qui sont là, cette fin d'après-midi, le 20 février 1933, dans le palais du président du Reichstag. Ce sont d'autres noms qu'il faut dire. Car Günther Quantz est un cryptonyme. Il dissimule tout autre chose que le gros bonhomme en train de se poisser les moustaches et qui se tient gentiment à sa place autour de la table d'honneur. Derrière lui, juste derrière lui, se trouve une silhouette autrement imposante, ombre tutélaire, aussi froide et impénétrable qu'une statue de pierre. Oui, surplombant de toute sa puissance, féroce, anonyme, la figure de Quantz, et lui donnant cette rigidité de masque, mais d'un masque qui collerait au visage mieux que sa propre peau, on devine au-dessus de lui Accumulatoren Fabrik AG, la future Varta que nous connaissons, puisque les personnes morales ont leur avatar, comme les divinités anciennes prenaient diverses formes et au fil du temps s'agrégeaient à d'autres lieux. Tel est donc le nom authentique de Quantz, leur nom de démiurge, puisque lui, Günther, n'est qu'un tout petit tas de chair et d'os comme vous et moi, et qu'après lui, ses fils et ses filles, et les fils de ses fils, s'assieront sur le trône. Mais le trône, lui, demeure quand le petit tas de chair et d'os s'aigrit dans la terre. Ainsi, les 24 ne s'appellent ni Schnitzer, ni Schmidt, ni Finck, ni Rosterg, ni Hebel, comme l'état civil nous incite à le croire. Il s'appelle BASF, Bayer, ACFA, Opel, IG Farben, Siemens, Allianz, Telefunken. Sous ces noms, nous les connaissons. Nous les connaissons même très bien. Ils sont là, parmi nous, entre nous. Ils sont nos voitures, nos machines à laver, nos produits d'entretien, nos radios réveils, l'assurance de notre maison, la pile de notre montre. Ils sont là partout, sous forme de choses. Notre quotidien est le leur. Ils nous soignent, nous vêtent, nous éclairent, nous transportent sur leur route du monde, nous bercent. Et les 24 bonhommes présents au palais du président du Reichstag ce 20 février ne sont rien d'autre que leur mandataire, le clergé de la grande industrie. Et ils se tiennent là, impassibles, comme 24 machines à calculer aux portes de l'enfer. Une visite de courtoisie. Un penchant obscur nous a livrés à l'ennemi, passif et rempli de crainte. Depuis, nos livres d'histoire ressassent l'événement effrayant, où la fulgurance et la raison auraient été d'accord. Ainsi, une fois que le haut clergé de l'industrie et de la banque eut été converti, puis les opposants réduits au silence, les seuls adversaires sérieux du régime furent les puissances étrangères. Le ton monta à mesure avec la France et l'Angleterre, en un mélange de coups de force et de bonnes paroles. Et c'est ainsi qu'en novembre 1937, entre deux mouvements d'humeur, après quelques protestations de pure forme à propos de l'annexion de la Sarre, de la remilitarisation de la Rhénanie ou du bombardement de Guernica par la Légion Condor, Halifax, lors président du Conseil, se rendit en Allemagne à titre personnel à l'invitation d'Hermann Göring, ministre de l'air, commandant en chef de la Luftwaffe, ministre du Reich à la forêt et à la chasse, président du défunt Reichstag, le créateur de la Gestapo. Voilà qui fait beaucoup. Et pourtant, Halifax ne tique pas. Il ne lui semble pas bizarre, ce type lyrique et truculent, antisémite notoire, bardé de décorations. Et on ne peut pas dire qu'Halifax a été entourloupé par quelqu'un qui cachait son jeu, qu'il n'a pas remarqué les tenues de dandy, les titres à n'en plus finir, la rhétorique délirante, ténébreuse, la silhouette entripaillée. Non ! À cette époque, on était très loin de la réunion du 20 février. Les nazis avaient abandonné toute retenue. Et puis, ils ont chassé ensemble, ri ensemble, dîné ensemble, et Hermann Göring, qui n'était pas avare en démonstration de tendresse et de sympathie, lui, qui avait dû rêver d'être acteur et qui l'était à sa manière devenu, a dû lui taper sur l'épaule, le charrier même un peu, le vieil Halifax, et lui jeter au visage quelques boniments à double sens de ceux qui laissent leur destinataire pantois un peu gêné, comme par une allusion sexuelle. Le grand veneur l'aurait-il enveloppé dans son écharpe de brume et de poussière? Pourtant, Lord Halifax, tout comme les 24 grands prêtres de l'industrie allemande, devait en savoir un bout sur Göring. Il devait un peu connaître son histoire, sa vie de putschiste, son goût pour les uniformes de fantaisie, sa morphinomanie, son internement en Suède, le diagnostic accablant de violence, de désordre mental, de dépression, ses penchants suicidaires. Il ne pouvait pas s'en tenir aux héros du baptême de l'air, aux pilotes de la Première Guerre, aux marchands de parachutes, aux vieux soldats. Ce n'était pas un naïf ou un amateur, Halifax. Et il devait être trop bien renseigné pour ne pas trouver un peu curieuse cette promenade au cours de laquelle on les aperçoit tous deux dans un petit film admirer le parc à bisons où Göring, furieusement décontracté, dispense ses leçons de bien-être. Il ne peut pas ne pas apercevoir l'étrange petite plume qu'il porte au chapeau, le col de fourrure, la drôle de cravate. Peut-être qu'il aime lui aussi la chasse, Halifax, comme l'aimait son vieux père, et alors il a dû prendre bien du plaisir. Mais il n'a pas pu ne pas voir l'étrange veste de cuir que porte Hermann Göring, ni le poignard à sa ceinture, ne pas entendre les allusions sinistres enrobées de grasses plaisanteries. Il l'a peut-être vu tirer à l'arc déguisé en saltimbanque. Il a sans doute vu les animaux sauvages domestiqués et le petit lionceau venir lécher le visage du maître. Et même s'il n'a rien vu de tout ça, même s'il n'a passé qu'un quart d'heure avec Göring, il a sûrement entendu parler des immenses circuits de petits trains pour enfants dans le sous-sol de sa maison. Et il l'a fatalement entendu chuchoter tout un tas de sottises bizarres. Et Halifax, le vieux renard, n'a pas pu ignorer son égomanie délirante. Il l'a peut-être même vu lâcher brusquement le volant de sa décapotable et crier dans le vent. Oui, il n'a pas pu ne pas deviner, sous le masque pâteux et boursouflé, le noyau effrayant. Et puis il a rencontré le fourreur. Et là encore, il n'aurait rien vu, Halifax. Ignorant les réserves d'Éden, il a été jusqu'à laisser entendre à Hitler que les prétentions allemandes sur l'Autriche et une partie de la Tchécoslovaquie ne semblaient pas illégitimes au gouvernement de Sa Majesté, à condition que cela se déroule dans la paix et la concertation. Il n'est pas farouche, Halifax. Mais une dernière anecdote rend son parfum au personnage. Devant Berchtesgaden, où on le déposa, Lord Halifax aperçut une silhouette près de la voiture qu'il prit pour un valet de pied. Il imagina que l'homme était venu à sa rencontre afin de l'aider à gravir les marches du perron. Alors, tandis qu'on ouvrait la portière, il lui tendit son manteau. Mais aussitôt, Von Neurath, ou quelqu'un d'autre, un valet de pied peut-être, lui souffla à l'oreille d'un ton rauque : Le fourreur. Lord Halifax leva les yeux. En effet, c'était Hitler. Il l'avait pris pour un laquais. C'est qu'il n'avait pas daigné hausser le nez, comme il le rapportera plus tard dans son petit livre de mémoire. Il n'a tout d'abord vu que des pantalons et tout en bas une paire de souliers. Le ton est ironique, Lord Halifax cherche à nous faire rire. Mais je ne trouve pas ça drôle. L'aristocrate anglais, le diplomate qui se tient fièrement debout derrière sa petite rangée d'ancêtres, sourd comme des trombones, con comme des buses, borné comme des filtres, voilà qui me laisse froid. N'est-ce pas le très honorable premier vicomte Halifax qui, en tant que chancelier de l'échiquier, s'opposa fermement à toute aide supplémentaire à l'Irlande pendant toute la durée de sa chancellerie? La famine fit 1 million de morts. Et le très honorable deuxième vicomte, le père d'Halifax, celui qui fut valet de chambre du roi, collectionneur d'histoires de fantômes, qu'après sa mort, un de ses fantômes de fils publia. Est-ce qu'on peut vraiment se cacher derrière ? Et puis cette maladresse n'a rien d'exceptionnel. Ce n'est pas la gaffe d'un vieil étourdi. C'est une cécité sociale, la morgue. En revanche, pour ce qui est des idées, il n'est pas bégueul, Halifax. Ainsi, à propos de son entrevue avec Hitler, il écrira à Baldwin : Le nationalisme et le racisme sont des forces puissantes, mais je ne les considère ni contre nature ni immorales. Et un peu plus tard : Je ne puis douter que ces personnes haïssent véritablement les communistes, et je vous assure que si nous étions à leur place, nous éprouverions la même chose. Telles furent les prémices de ce qu'on appelle encore aujourd'hui la politique d'apaisement.
Les bras tout chargés de fleurs, je suis entrée dans notre chambre, le cœur là, car je savais déjà que tu ne viendrais pas, et j'ai chanté des mots d'amour et de douleur. Je suis restée toute seule et j'ai pleuré en écoutant hurler la plainte des frimas. Sombre dimanche, je mourrai un dimanche où j'aurai trop souffert. Alors tu reviendras, mais je serai parti. Des cierges brûleront comme un ardent espoir, et pour toi, saints et forts, mes yeux seront ouverts. N'aie pas peur, mon amour, s'ils ne peuvent te voir, ils te diront que je t'aimais plus que ma vie. Humbre dimanche. N'aie pas peur de mes yeux s'ils ne peuvent te voir, ils te diront que je t'aimais plus que ma vie. Ombre dimanche.
Lectures en liberté, Denis Flagel.
Et voici la suite du récit de Éric Vuillard, L'ordre du jour. Intimidation. On en était donc aux visites de courtoisie. Pourtant, le 5 novembre, à peine une douzaine de jours avant que Lord Halifax viennent parler de paix avec les Allemands, Hitler avait confié au chef de ses armées comment il projetait d'occuper par la force une partie de l'Europe. On envahirait d'abord l'Autriche et la Tchécoslovaquie. C'est qu'on était trop à l'étroit en Allemagne, puisqu'on n'atteint jamais le fond de ses désirs, que la tête se tourne toujours vers les horizons effacés, et qu'un zeste de mégalomanie sur des troubles paranoïaques rend la pente encore plus irrésistible. Après les délires d'Herder et les discours de Fichte, depuis l'esprit d'un peuple célébré par Hegel et le rêve de Schelling d'une communion des cœurs, la notion d'espace vital n'était pas une nouveauté. Bien sûr, cette réunion était restée secrète. Mais on voit un peu quelle devait être l'ambiance à Berlin, juste avant la venue d'Halifax. Et ce n'est pas tout. Le 8 novembre, 9 jours avant sa visite, Goebbels avait inauguré une grande exposition d'art à Munich sur le thème du Juif éternel. Voilà pour le décor. Personne ne pouvait ignorer les projets des nazis, leurs intentions brutales. L'incendie du Reichstag le 27 février 1933, l'ouverture de Dachau la même année, la stérilisation des malades mentaux la même année, la nuit des longs couteaux l'année suivante, les lois sur la sauvegarde du sang et de l'honneur allemand, le recensement des caractéristiques raciales en 1935, cela faisait vraiment beaucoup. En Autriche, où se tournèrent aussitôt les ambitions du Reich, le chancelier Dollfuss, qui s'était arrogé du haut de son petit mètre 50 tous les pouvoirs, avait été assassiné par des nazis autrichiens dès 1934. Schöschnigg, son successeur, avait poursuivi sa politique autoritaire. L'Allemagne avait alors mené pendant plusieurs années une diplomatie hypocrite, peau pourrie d'attentats, de chantage et de séduction. Enfin, 3 mois à peine après la visite d'Halifax, Hitler hausse le ton. Schösnig, le petit despote autrichien, est convoqué en Bavière. C'est l'heure du diktat. Le temps des manœuvres clandestines est échu. Le 12 février 1938, Schösnig se rend donc à Berchtesgaden pour une rencontre avec Adolf Hitler. Il arrive à la gare déguisé en skieur. L'alibi de son voyage est un séjour au sport d'hiver. Et tandis qu'on charge dans le train son équipement de ski, la fête à Vienne bat son plein. Car c'est carnaval. Les dates les plus joyeuses chevauchent ainsi les rendez-vous sinistres de l'histoire. Fanfare, quadrille, bouquet final. On joue une des 150 valses de Strauss, empreinte d'élégance et de charme sous une avalanche de confiserie. Le carnaval de Vienne est certes moins connu que ceux de Venise ou de Rio. On n'y porte pas de si beaux masques et on ne s'y abandonne pas à des danses si fiévreuses, non. Ce n'est rien d'autre qu'une série de bals. Mais c'est tout de même une immense fête. Les corps constitués du petit État catholique et corporatiste organisent les réjouissances ainsi, pendant que l'Autriche agonise. Son chancelier, déguisé en skieur, s'éclipse de nuit pour un improbable voyage et les Autrichiens font la fête. Au matin, dans la gare de Salzbourg, il y a juste un cordon de gendarmes. Le temps est humide et froid. La voiture qui emporte Schösnig longe le terrain d'aviation puis emprunte la route nationale. Le grand ciel gris rend songeur. Sa rêverie s'abandonne aux oscillations de la voiture, se mêle aux flocons de givre. Toute vie est misérable et solitaire. Tous les chemins sont tristes. La frontière approche. Schösnig est pris d'une brusque appréhension. Il a le sentiment d'être au bord de la vérité. Il regarde le crâne de son chauffeur. À la frontière, von Papen est venu l'accueillir. Son long visage élégant rassure le chancelier. Tandis qu'il monte en voiture, von Papen lui annonce que 3 généraux allemands assisteront à la conférence. « Vous n'y voyez pas d'inconvénient, j'espère », lance-t-il négligemment. Les manœuvres les plus brutales nous laissent sans voix. On n'ose rien dire. Un être trop poli, trop timide, tout au fond de nous, répond à notre place. Il dit le contraire de ce qu'il faudrait dire. Ainsi, Schösnig ne proteste pas et la voiture reprend sa route, comme si de rien n'était. Tandis que son regard mort roule sur le bas-côté, un camion militaire les double, suivi par 2 voitures blindées de la SS. Le chancelier autrichien éprouve une sourde angoisse. Qu'est-il venu faire dans ce guépier ? Lentement, on se met à grimper vers Berchtesgaden. Schösnig fixe le sommet des pins, s'efforçant de maîtriser son malaise. Il se tait. Et puis la voiture arrive au Berghof. Le portail s'ouvre et se referme. Schösnig a le sentiment d'être tombé dans un horrible piège. L'entrevue du Berghof. Vers 11h du matin, après les quelques moulinets de politesse habituels, les portes du bureau d'Adolf Hitler se referment derrière le chancelier d'Autriche. C'est alors qu'a lieu une des scènes les plus fantastiques et grotesques de tous les temps. Nous n'en avons qu'un témoignage, celui de Kurt von Schösnig. C'est au chapitre le plus douloureux de ses mémoires, Requiem pour l'Autriche, qu'après un exergue du Tasse, un peu pédant, son petit récit commence à l'une des fenêtres du Berghof. Le chancelier d'Autriche vient de s'asseoir à l'invitation du fourreur. Il croise et décroise les jambes un peu mal à l'aise. Il se sent comme engourdi, privé de force. L'angoisse de tout à l'heure est là, suspendue au caisson du plafond, caché sous les fauteuils. Ne sachant trop quoi dire, Schöschnigg tourne la tête et admire la vue, puis il évoque, enthousiaste, les entretiens décisifs qui ont dû avoir lieu dans ce bureau. Aussitôt, Hitler le remballe. « Nous ne sommes pas ici pour parler de la vue, ni du temps qu'il fait. » Schöschnigg est tétanisé. Il essaie alors, par un laïus guindé et maladroit, de remonter la pente, évoquant le pauvre accord austro-allemand de juillet 1936, comme s'il était venu ici seulement afin d'éclaircir de petites difficultés passagères. Enfin, dans un élan désespéré, s'accrochant à sa bonne foi, comme à une pauvre bouée de sauvetage, le chancelier autrichien déclare avoir mené ces dernières années une politique allemande, résolument allemande. C'est là qu'Adolf Hitler l'attendait. « Ah, vous appelez ça une politique allemande, monsieur Schöschnigg. Vous avez tout fait au contraire pour éviter une politique allemande, hurle-t-il. » Et après une maladroite justification de Schöschnigg, Hitler, hors de lui, monte d'un cran. « D'ailleurs, l'Autriche n'a jamais rien fait qui ait servi le Reich. Son histoire est une suite ininterrompue de trahisons. » Aussitôt, les mains de Schöschnigg sont toutes moites. Et que la pièce lui semble grande. Pourtant, tout a l'air calme. Les fauteuils sont revêtus d'une tapisserie vulgaire, les coussins sont trop mous, les boiseries régulières, les abat-jours cernés par de petits pompons. Soudain, Schöschnigg est seul dans l'herbe froide, sous le grand ciel d'hiver, face aux montagnes. La fenêtre devient immense. Hitler le regarde avec ses yeux pâles. Schöschnigg recroise les jambes et réajuste ses lunettes. Pour le moment, Hitler l'appelle « monsieur » et Schöschnigg, imperturbable, continue à l'appeler « chancelier ». Hitler l'a envoyé sur les roses et Schöschnigg, pour se justifier, s'est vanté de mener une politique allemande. À présent, voici que le chancelier allemand insulte l'Autriche, allant même jusqu'à hurler que sa contribution à l'histoire allemande est égale à zéro. Et Schöschnigg, tolérant, magnanime, au lieu de tourner les talons et de couper court, cherche désespérément dans sa mémoire, comme un bon élève, un exemple de la fameuse contribution autrichienne à l'histoire. À toute vitesse, dans le plus grand désarroi, il fouille les poches des siècles. Mais sa mémoire est vide. Le monde est vide. L'Autriche est vide. Et les yeux du fourreur le fixent obstinément. Alors, que trouve-t-il pressé par son désespoir ? Beethoven. Il trouve le bon Ludwig van Beethoven, le sourd irascible, le républicain, le solitaire désespéré. C'est Beethoven qu'il va tirer de sa retraite, le fils d'alcoolique, le basané. C'est lui que Kurt von Schöschnigg, le chancelier d'Autriche, le petit aristocrate raciste et timoré, sort de la poche de l'histoire et remue soudain comme un chiffon blanc au visage d'Hitler. Pauvre Schöschnigg. Il va chercher un musicien contre le délire. Il va chercher la 9e symphonie contre la menace d'une agression militaire. Il va chercher les 3 petites notes de l'Appassionata pour démontrer que l'Autriche a bien joué un rôle dans l'histoire. Beethoven n'est pas autrichien, lui rétorque alors Hitler en un coup de bec inattendu. Il est allemand. Donc nous avons terminé pour ce soir cette suite du récit de Éric Fuillard, L'ordre du jour, que nous retrouverons demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.